Alors peut-être un mot aussi sur l'importance de telles rencontres pour des chercheurs, de préciser, bah voilà, ce que vous disiez, bah oui, malheureusement cette année, c'est malheureusement, c'était en visio. Donc qu'est-ce que ça apporte aussi le fait de pouvoir rencontrer des
Ah ben,
chercheurs ou des homologues du monde entier?
c'est-à-dire c'est quelque chose qui est générateur d'une véritable dynamique d'échange entre chercheurs francophones et lusophones. Par exemple, pour ce colloque Naturéville, nous avons été amenés à faire se rencontrer des chercheurs qui ne s'étaient, enfin, brésiliens ou portugais, et français d'autre côté, ou francophones, à les faire se rencontrer alors qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Et nous les avons rassemblés sur les thèmes qu'ils ont été amenés à traiter dans une approche comparative. Et puis, évidemment, comme tout colloque, eh ben, c'est l'occasion, de façon informelle, de multiplier les contacts, de lancer de nouveaux projets, etc. Donc, à Tours, en 2018, lorsque nous avions organisé ce colloque, nous avions un peu plus d'une centaine de chercheurs qui ont participé et qui provenaient de 13 pays différents au total. Là, pour la dernière édition en visioconférence, ben là, on voit justement les limites du système. Il y avait beaucoup moins de participants francophones, mais il y en avait, bien sûr. Et c'était organisé cette fois-ci au Brésil. Et le thème, c'était l'espace public. Donc, voilà. On était dans. Mais évidemment, on a été nettement moins nombreux, on était une soixantaine à participer à cette édition virtuelle des échanges et on espère très vivement pouvoir redémarrer sur effectivement l'organisation de colloques sous forme traditionnelle en présentiel.
J'ajouterais peut-être que c'est en fait toujours enrichissant d'avoir un autre regard porté sur un même objet, que ce soit un regard qui émane de chercheurs d'autres pays, mais aussi de chercheurs d'autres disciplines, et on le voit particulièrement au sein de l'UMR CITER. C'est vraiment ce qui est la force en fait de CITER, et c'est vraiment enrichissant pour tout le monde, parce que ça permet de s'interroger sur son propre regard qu'on peut porter sur son objet de recherche, et de voir en fait d'autres manières aussi d'appréhender ce même objet de manière complémentaire. Je pense que c'est ce qui permet aussi, ce que permettent les dialogos également.
Pour expliquer à nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers des colloques, comment on pourrait leur expliquer ce que vous avez dit tout à l'heure? Donc il y a eu des articles retenus, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas été. Donc ça veut dire comment ça se passe? Il y a un appel à candidature, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comment ça
Alors, il
se
y a,
passe?
enfin, généralement, c'est un peu toujours la même chose, avec des nuances selon les cas, mais il y a un appel à communication qui est lancé, alors diffusé très largement via Internet, etc. Un certain nombre de gens proposent des réponses en fonction de l'adéquation au thème et puis aussi peut-être de la qualité de la proposition, un certain nombre de certaines propositions peuvent être éventuellement refusées, mais quand même, il faut dire que c'est la très grosse majorité qui est acceptée. Et une fois la sélection faite, il y a un programme qui est établi. Ensuite, les gens sont amenés à travailler ensemble. Mais comme, là, la particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la parité de ces dialogues, c'est que, au-delà du fait de lancer un appel à communication comme dans tout colloque classique, on va aussi chercher des contributeurs. C'est-à-dire qu'on sollicite directement des personnes pour y participer. Et on essaye de les mettre en relation. Alors après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Il est évident qu'on ne va pas imposer quoi que ce soit. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à constituer un certain nombre de binômes franco-brésiliens ou franco-portugais.
Donc ces deux ouvrages voilà, qui sont constitués de chapitres à chaque fois. Donc peut-être vous voudriez dire un mot sur leur construction, comment ils ont été faits ces deux ouvrages, comment vous avez trié, classé les différents articles. Voilà, on voit aussi que certains articles sont enrichis d'encadrés. Donc comment on fabrique de tels ouvrages?
Bon, je veux bien continuer, mais mes collègues compléteront, hein, bien entendu. Alors, on peut peut-être dire qu'à l'origine, nous n'avions prévu que de produire qu'un seul ouvrage. Et c'est pour des raisons éditoriales que l'éditeur nous a demandé construire non pas un, mais deux ouvrages. Mais à l'origine, on avait tous les chapitres qui sont dans les deux ouvrages étaient, nous avions prévu de les réunir dans un ouvrage unique. Et donc, ce que nous avons été amenés à faire, c'est d'essayer de construire une présentation assez cohérente et logique de chacun d'entre eux. Ce qui veut dire que dans le premier, nous avons rassemblé les textes qui, j'allais dire, relevaient plus directement soit d'approches théoriques et conceptuelles, soit d'études de cas empiriques, mais qui traitaient de la relation entre ville et nature, une relation faite à la fois de complémentarité et d'opposition. Et donc, c'est un premier ouvrage d'une portée, j'allais dire, plus générale. Le second, lui, il est plus tourné vers l'action et la pratique, pour essayer de voir comment, quelles sont les formes émergentes de nature en ville, comment se construisent les projets de renaturation lorsqu'il y en a, comment traiter la nature dans les plans d'urbanisme, etc. Donc voilà la structure générale de ces deux ouvrages. Alors après, de manière pratique, la réalisation et la rédaction se fait par, en interaction entre les auteurs et les coordonnateurs. C'est-à-dire que les auteurs nous envoient les textes, on les relit, on fait des lectures croisées, on propose des corrections, on propose des amendements, on propose éventuellement, lorsqu'il y a quelque chose qui nous paraît relever d'une digression, de créer un encart justement pour mieux conserver la continuité du texte, etc. Donc nous avons un travail qui est véritablement d'appui aux auteurs pour leur permettre d'arriver à rentrer dans les clous de l'ouvrage, c'est-à-dire produire des chapitres qui ne soient pas ni trop longs, ni trop courts et qui soient bien articulés à la thématique générale. Mais je sais pas si...
Peut-être en précision, il nous faut aussi nous conformer aux exigences aussi de l'éditeur, là en l'occurrence l'Harmattan.
Alors justement, puisque vous parlez de temps, Amélie Robert, est-ce que vous voudriez donner à voir à nos auditeurs donc combien de temps ça nécessite pour relire, pour trier, pour faire des corrections, pour renvoyer les articles, pour les recevoir à nouveau, pour les mettre en forme? On imagine que ça va être un temps phénoménal.
C'est assez chronophage, effectivement. Alors là, on avait la chance d'être cinq, donc on s'est quand même partagé un peu le travail. Ça aide quand même beaucoup. On a quand même relevé le défi en 2 ans, hein, c'est ça, après le colloque à publier, donc ce qui est un temps relativement honorable, même si le parcours a été un peu rallongé par certains obstacles qu'on a pu avoir, mais parfois ça peut être aussi plus long, donc on a réussi à relever le défi dans un temps relativement court, mais c'est vrai que ça prend effectivement beaucoup de temps d'échanges avec chacun des auteurs, de relecture, de vérification, ça prend du temps.
Il y a contestation du côté des auteurs quand on leur propose certaines corrections?
Je ne crois pas que ça se soit présenté, il ne me semble pas. Souvent, c'est plus des petites choses, des petites coquilles qui sont corrigées, des petits points à repréciser. Il ne me semble pas qu'il y ait eu Jean-Paul.
Non, c'est à la marge hein, qu'il peut y avoir une discussion. Mais de toute façon, ce que l'on fait, c'est que nous corrigeons les textes, nous les amendons éventuellement, nous en coupons éventuellement des parties, etc. Mais bien entendu, tout cela se fait avec l'assentiment de l'auteur. C'est-à-dire qu'on renvoie le texte avec les propositions de correction, et l'auteur nous dit ce qu'il en pense, s'il est d'accord ou pas, et c'est par un dialogue avec chacun des auteurs qu'on arrive à finaliser un texte.
Et puis après, il faut aussi savoir que les chapitres qui vraiment ne convenaient pas avaient été écartés d'emblée. Oui.
Donc je reviens sur une étude comparative, puisque ce sont des études comparatives. Alors comment on mène de telles études? De quels outils on se dote pour les faire? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour être accord en fait avec de chercheurs qui sont dans des contextes différents?
Vas-y, réponds, Amélie.
Alors, c'est vrai que c'est pas forcément aisé de conduire de telles de telles études. Souvent, il faut effectivement avoir le mieux, enfin, si on travaille sur des terrains différents, c'est d'y appliquer la même méthodologie, de partir sur une même base, de partir de questions similaires. Sinon, c'est d'avoir des approches différentes, mais pour un même terrain, des approches qui puissent se compléter. Évidemment, ça suppose une réflexion en amont, de conduire les recherches, enfin, d'y réfléchir en amont et de conduire les recherches en même temps, de concert. C'est beaucoup plus compliqué quand cette comparaison-là, donc cette étude comparative est conduite a posteriori, donc une fois que les travaux et les recherches ont déjà été conduites, de faire des liens, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et le danger qu'il peut y avoir, c'est d'avoir une superposition de deux travaux conduits en parallèle et sans qu'il y ait vraiment de lien qui se fasse. Et là, c'est vraiment le défi qui est... qui se pose hein, pour les dialogos. Et là, c'est peut-être plus Jean-Paul qui pourra apporter des précisions sur comment faire échanger des chercheurs qui ont déjà conduit leur recherche.
À moins que Francesca veuille ajouter.
Non. Simplement, je pense qu'effectivement, comme vient de le dire Amélie, soit on a le même objet avec des regards différents, soit on a le même regard sur des objets différents. Voilà, mais il faut quand même avoir quelque chose en commun pour que l'étude comparative soit pertinente.
Alors, très souvent, moi, en aménagement urbanisme, les études d'analyse comparée qui confrontent des situations prises dans des contextes sociétaux et géographiques différents, les études comparées sont menées par une personne éventuellement en lien avec une équipe, mais une personne. Là, c'est un peu l'originalité de ces deux ouvrages, enfin, au-delà des deux ouvrages des dialogos, c'est qu'on essaye effectivement de faire travailler ensemble des gens de pays différents. Et là, c'est pas toujours simple, évidemment, puisque les référents culturels sont quand même parfois un peu éloignés. Donc, il faut commencer par comprendre si on met la même chose ou pas sous le même mot. Ça commence par là. Et puis ensuite, bah, effectivement, il faut définir un protocole d'étude, poser des hypothèses en commun, définir comment on va les vérifier sur nos terrains respectifs, et finalement arriver à s'entendre sur les conclusions et sur les résultats. Donc c'est quelque chose c'est un processus assez long et complexe, hein, effectivement, mais très enrichissant.
Comment on prépare, par exemple, si on veut aller faire une étude sur deux terrains différents, donc c'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'on cherche avant qu'est-ce qui est vérifiable, quantifiable, qu'est-ce que je vais aller regarder sur place, comment je fais des photos peut-être, comment on fait tout ça.
Oui, par exemple, si on fait une enquête, on se met d'accord sur le même protocole d'enquête, le même type d'acteur enquêté, un échantillonnage qui soit comparable. Si on regarde la végétation, voilà, on aura aussi le même protocole de relevé botanique avec le même type de référence, d'observation, la même façon de mesurer des espèces végétales. Voilà, on essaye d'avoir le même protocole méthodologique sur des objets différents. Mais... Thank you.
Alors, j'en profite, hein, puisque vous êtes ici, Jean-Paul Carrière. Je vous posais une question que peut-être certains de nos auditeurs se posent sans oser la poser. Il se trouve que vous êtes aussi président de la section prospective du Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val-de-Loire. Alors, la question, c'est quoi le Conseil économique, social et environnemental?
Alors, écoutez, on pourrait faire toute l'émission sur le sujet, mais je vous réponds en trois mots. Il s'agit de la deuxième assemblée régionale, car c'est effectivement quelque chose qui est méconnu. Mais les régions, à la tête des régions, vous avez deux assemblées. Vous avez un exécutif, bien sûr, mais vous avez deux assemblées. Une assemblée délibérative, qui est le conseil régional, et une assemblée consultative, qui est le conseil économique et social, qui rassemble des représentants de la société civile organisée. C'est-à-dire milieu associatif, syndicats, entreprises, etc. Et le CESER se prononce sur toutes les décisions que va devoir prendre le Conseil régional sur saisine du président de région, d'une part. Donc on émet des avis sur le budget de la région, sur toutes les politiques régionales. Et puis d'autre part, le CESER peut s'auto-saisir de différentes questions. Et la section prospective est justement un des lieux de cette auto-saisine, puisque c'est nous-mêmes qui définissons le contenu de nos travaux. Nous avons produit récemment un rapport prospectif, effectivement, sur les effets de la métropolisation dans la région Centre-Val-de-Loire. Et là, nous travaillons sur le devenir des espaces ruraux, avec une réflexion qui nous porte, qui nous projette à l'horizon 2050, sur le devenir des espaces ruraux dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc voilà ce que fait la section prospective.